Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capu Charmé.
Que dit la loi congolaise en cas de violation des droits de l'enfant? Vous savez, la RDC est signataire de la Convention universelle relative aux droits de l'enfant aussi, là depuis juillet 2010, par le biais du législateur congolais, adopté la loi portant protection de l'enfant. Mais cependant, on constate sur le terrain quelques cas de violation de ces dispositions. Et quelles sont les sanctions en cours toute personne qui enfreint cette loi et quel recours juridique pour les victimes? Un dilemme à l'air. Et notre invité, il est juriste indépendant, Maître Guilherme Allaire, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à tous les auditeurs.
Voilà. Alors dites-nous, quelles sont les sanctions réservées à toute personne qui enfreint cette loi et portant protection de l'enfant?
Merci beaucoup Jody. Il importe de dire que la loi du 10 janvier que vous avez citée tout à l'heure, la loi du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, instaure plusieurs types, n'est-ce pas, de protection en faveur de l'enfant. Ça part de la protection sociale à la protection judiciaire et à la protection pénale. Notre émission ici, telle que vous l'avez annoncée, s'intéresse donc à la protection dite pénale qui est apportée à l'enfant, c'est-à-dire à travers des dispositions du code pénal qui répriment les violations de tous les droits qui sont reconnus à l'enfant.
D'abord, quelles sont les violations? Quels sont ces droits qui sont souvent violés dans notre pays?
Oui, très bien, je vous dis... la plupart des droits consacrés par la loi en faveur de l'enfant sont clairement violés dans notre pays, notamment par exemple le respect, n'est-ce pas, de l'intégrité physique de l'enfant.
Oui.
Souvent, les enfants sont objets de maltraitance de toutes sortes.
Les enfants dits sorciers, surtout.
Par exemple, ils sont maltraités. Oui. Il y a les enfants qui sont tout à fait plongés dans la mendicité à cause de ce phénomène-là et dans les vagabondages.
Oui.
Il y a des enfants qui subissent comme ça des sévices corporels en milieu familial. Ils sont battus. Il y a des enfants dont les droits à l'éducation est bafoué parce que tout simplement ils ne vont pas à l'école.
Oui.
Les droits à la santé, etc. Les droits au respect de la vie privée, le droit à la liberté d'expression.
Et également le travail des enfants. Les enfants qui travaillent dans les carrières, dans les mines, et ils peuvent pas aller à l'école. On les voit circuler en ville en train de vendre des sachets et autres.
Exactement, je vous dis, ça c'est l'interdiction des pires formes de travail de l'enfant. Ce sont donc des droits qui sont vraiment violés. Le droit à l'éducation, par exemple, est violé dans le cas d'exploitation économique de l'enfant, où plutôt que de l'envoyer à l'école, on lui donne un bidon de pétrole, on lui demande de vendre et de travailler ainsi pendant des heures et des heures, pour un revenu qui finalement est soutiré par les adultes. Donc, il y a énormément...
Et on voit par exemple à Kinshasa également des personnes aveugles, des grandes personnes qui se promènent avec des petits-enfants qui leur servent des guides.
Oui, privant ainsi ces enfants-là du droit à de nombreux droits, à l'éducation, à l'épanouissement, à la récréation, etc. Donc, ce sont des enfants qui sont pratiquement sacrifiés.
Enfants soldats aussi.
Les enfants soldats qui, eux, selon la loi, doivent bénéficier d'une protection spéciale qui se manifeste à travers des mécanismes de démobilisation qui doit être immédiate. Puis ces enfants qui ont combattu dans les forces ou les groupes armés, etc., c'est des enfants qui sont maintenant clairement protégés par la loi à divers niveaux.
Alors, quelles sont les sanctions qui sont réservées à toute personne qui va enfreindre cette loi?
Alors, très bien, il importe ici de noter une innovation importante qui a été instituée par la loi de 2009, de 18 janvier, en ce que l'enfant est protégé avant la naissance et après la naissance. Le fait de protéger l'enfant avant la naissance est une innovation importante, dans la mesure où, dans le cadre de la protection de l'enfant, il est interdit de porter volontairement des coups et blessures à une femme enceinte. En le faisant, n'est-ce pas, on porte atteinte à l'enfant conçu, et donc ceci peut valoir au père brutal ou à l'amant brutal une peine d'emprisonnement de 6 mois à 1 an de prison, ainsi que d'une amende qui peut aller de 100 000 à 250 000 francs congolais. Le fait de battre une femme enceinte vous expose à ce genre de sanctions. Et si cette violence, n'est-ce pas, altère gravement la santé de la mère enceinte, oui, eh bien la peine est aggravée, elle va de 2 à 5 ans de prison, ainsi qu'une amende à 250 000 à 350 000 francs congolais. Alors, ça c'est l'enfant avant la naissance qui est protégé donc dans le ventre de sa mère.
Oui.
Après sa naissance, les enfants, l'enfant est protégé d'une manière spéciale par le code pénal maintenant, tel que modifié par la loi portant protection de l'enfant, dans la mesure où les infractions ordinaires des droits communs qui sont commises sur toute personne sont sanctionnées plus sévèrement lorsqu'elles sont commises sur un enfant. Ainsi, les coups et blessures dont nous avons parlé tout à l'heure, qui sont portés sur un enfant, sont punissables de 3 mois à 6 mois de sanctions pénales et d'une amende de 100 000 à 250 000 francs congolais. Nous avons les mutilations sexuelles, la torture, par exemple. Le fait de soumettre un enfant à des faits de torture, eh bien...
Il y a certains qui brûlent même les... Parce que l'enfant, c'est un petit voleur, il a fait un... il s'est commis un larcin. On va les brûler les mains.
Ou alors on les chauffe au fer à
répasser.
On a entendu des choses comme ça. Eh bien, dans ce cas-là, le coupable sera puni, n'est-ce pas, de peine de prison qui peut aller d'un an à 5 ans de prison, ainsi que d'une amende qui va au-delà de 500 000 à 1 million de francs congolais. Il y a des circonstances bien entendu aggravantes de cela lorsque les tortures ont causé un handicap très grave sur l'enfant, la peine peut aller jusqu'à la servitude pénale, n'est-ce pas, à perpétuité, selon l'article 52 de cette loi portant protection de l'enfant.
De l'enfant, oui.
Donc, vous comprenez, donc, il y a aussi une infraction dont vous avez parlé tout à l'heure, le fait d'imputer méchamment à un enfant un fait précis. Prenons le cas d'accusation de sorcellerie. Le fait d'accuser un enfant maintenant de sorcellerie dans notre pays, eh bien, est passible d'une amende de 1 à 3 ans de prison, d'une peine de prison de 1 à 3 ans, ainsi que d'une amende de 200 000 à 1 million de francs congolais. Le seul fait d'accuser un enfant de sorcellerie, à tort ou à raison, vous expose à la prison pour très longtemps, ainsi qu'à une lourde peine d'amende.
Bien, deux auditeurs en ligne, splendide d'être aussi, nous appelle Écologie au Katanga et Joseph Tilaou de Katanga au Kasaï Occidental. Splendide, bonjour.
Bonjour, merci, monsieur le journaliste.
Vous êtes à Écologie, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la protection de l'enfant?
Oui, par rapport à la protection de l'enfant, je pars vite dans la rue, je veux un peu dire ceci. Oui, mais l'invité a essayé un peu d'énumérer quelques lois et aussi leurs conséquences, mais si on essaie de regarder d'interroger un peu quelques enfants de la rue qu'on trouve déjà dans la rue, en faisant abstraction de ceux qui sont sous le toit de leurs parents, on peut remarquer que les réponses, c'est que les parents m'ont choisi, j'étais sorcier, mais est-ce qu'il y a possibilité de voir déjà les enfants qui sont dans la rue, prenant leur plainte, soit disant que non, on m'a chassé, j'étais sorcier, et d'aller voir leurs parents, et peut-être que je vais dire autrement que, est-ce que dans ce cas-là, ces lois-là peuvent s'appliquer sur ces gens qui, déjà, leurs enfants sont dans la rue avec comme objectif ou comme plainte qu'ils ont été chassés à la maison parce qu'ils sont sorciers. Et aussi, autre chose, c'est que les enfants qui sont dans la maison, peut-être on a tapé l'enfant, on l'a accusé d'être sorcier, même les parents, peut-être d'autres parents, ça existe, ils refusent ou ils freinent l'enfant de le dire, de l'exprimer. Comment eux sauront que cet enfant-là est menacé de la sorte? Voilà un peu ma présentation sur ce sujet.
Merci, Splendide de Colisie. Joseph Tilaou de Kananga, bonjour. Joseph, vous êtes en ligne depuis Kananga, bonjour. On vous écoute parler un peu plus fort, Joseph.
Ok, mais ma question c'est de savoir, on ne sait pas, un homme qui a dit que c'est une rassemblement qui en a la pauvreté, ça semble bien enceinte. C'est une enfant, la femme a bien expliqué ce sera maintenant la fonction, ce sera donné à.
Joseph, on ne vous écoute pas très très bien, le niveau est bas. Si vous pouvez parler encore un peu plus fort, Joseph.
J'ai dit ceci.
Oui.
Un homme qui a dit qu'il décide de dire à sa femme qui est enceinte, c'est un homme à corriger, la femme qui va bien expliquer les politiques. Quelle sera la fonction de la politique qui sera appliquée au bureau. Et la deuxième question, c'est de savoir quelle est la procédure active en cas de un enfant qui est ou d'une réservation de l'histoire. Quelle sera maintenant, quelle est la procédure active pour le rendre histoire et de la son droit. C'est pas un modèle de l'histoire.
Merci Joseph de Kananga. Christian Boukessé de Mbandaka, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Daniel. Bonjour à Maître Guy Malheur ainsi qu'à tous les auditeurs.
Merci. On vous écoute, Christian.
Oui, je voudrais poser mes deux questions à Maître Guy Malheur.
Maître Guy
Malheur. La première, la suivante.
Oui.
Je voudrais demander à Maître Guy Malheur, lorsque le parent se dit dépourvu de moyens et ils prennent leurs enfants, bien entendu, mineurs, mais pour les utiliser avant d'entrer les histoires à la rue, si on est parti par là. Qu'est-ce que le législateur a prévu au cas de violation des droits de ces enfants? Il fallait qu'ils aillent à l'école, mais les parents se disent dépourvus de moyens, ils ont pris ces enfants pour les utiliser avant d'entrer des marchandises, soit pareil, tout en sillonnant, donc en état nomade. Ça, c'est la première question. La deuxième petite dernière question est la suivante. Lorsque les deux parents sont morts, bien évidemment, papa était polygame, il avait plusieurs femmes. Mmh. Mais la seule femme qui restait avec lui à la maison, tous les deux sont morts. Donc, et le papa et la mère là sont morts. Ils ont laissé les enfants nés des mères différentes. Maintenant, il y a aussi des enfants mineurs qui sont... en fait, il y a des enfants mineurs et les adultes. Mais l'adulte, l'aîné qui est là à la maison, ça profite de tout le bien des parents. Ils gagnent, ils ont beaucoup de parfums, mais c'est lui qui gagne l'argent sans qu'il soit payé la scolarité de ses enfants. Quelles sont les démarches que ces enfants mineurs peuvent entreprendre pour saisir la justice? Est-ce qu'il faut aller chez un autre parent pour lui dire en fait qu'il les accompagne ou et même ils peuvent entreprendre certaines démarches pour saisir la justice? Merci.
Merci Christian Boukessé de Mbandaka dans la province de l'Équateur. Matsuki nous appelle de Kisangani dans la province orientale. Matsuki, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Oui.
Ok, j'avais une préoccupation. Ok, je vais d'abord commencer par donner un exemple. Hein.
Oui, Matsuki, s'il vous plaît.
Moi, j'ai 2 ans.
Matsuki, s'il vous plaît, si vous pouvez commencer par fermer d'abord votre poste récepteur, parce qu'il y a un réseau et retour okay. À l'antenne. Vous allez sur la partie de votre téléphone, regardez-y.
Ok, bon, je voulais d'abord commencer par un exemple. Hein. Un couple qui a un enfant moins de 2 ans. Et que la femme se rebelle dans la maison, et puis elle fait le divorce. Et puis la femme a emporté l'enfant avec elle chez elle. Et que le mari constate que l'enfant commence à souffrir. Est-ce que le mari doit attendre à quel âge pour récupérer son enfant?
C'est ce
que je voulais un peu poser à notre invité.
Merci Matsuki, Guillaume Allaire.
Oh là là, merci beaucoup Jody, nos auditeurs sont vraiment déchaînés avec des questions très intéressantes. Je commence par Splendide de Colosi, qui a parlé en gros elle est préoccupée par l'impunité, n'est-ce pas, par rapport aux enfants de la rue.
Mmh.
Elle s'est demandé si ces enfants-là ont le droit de porter plainte contre des cas d'accusation de sorcellerie et de coups et blessures. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire à leur niveau, ces enfants-là? Alors, c'est l'une des innovations importantes de la loi de 2009 portant protection de l'enfant, qui, à son article 102, prévoit parmi les modes de saisine de l'autorité judiciaire, le fait que l'enfant peut aller effectuer lui-même devant l'autorité judiciaire une déclaration spontanée. Donc, l'autorité judiciaire est censée recevoir l'enfant qui a une plainte à porter contre des personnes qui se rendent auteurs de maltraitance à son égard. Ça, c'est une importante innovation parce que dans le temps, il fallait que ce soit la personne qui exerce l'autorité parentale sur l'enfant qui pouvait agir, n'est-ce pas, en justice pour y défendre ce droit.
Maintenant, l'enfant lui-même peut aller.
L'enfant lui-même peut spontanément aller. Donc, l'enfant de la rue...
Où est-ce qu'il peut se présenter?
Au poste de police le plus proche, c'est ça la justice de proximité. Il peut aller, n'est-ce pas, au niveau du conteneur appelé qui est le SUSIAT, sous commissariat, et porter plainte auprès d'un agent de la police qui est revêtu de la qualité d'OPJ. Et tout de suite, son dossier sera pris en charge. Et l'adulte qui s'est rendu auteur des actes de maltraitance ou de diffamation à l'égard de cet enfant sera immédiatement appréhendé. Joseph Silaou, de Kananga, lui, c'est...
Il parle d'un homme qui bat sa femme, hein.
Oui, oui, oui. Et alors, lui, il était préoccupé par le cas où les coups de blessures infligées à la femme enceinte, dans le cas de la protection de l'enfant avant la naissance, provoquent un avortement. Alors, dans ce cas-là, la peine est aggravée parce que, ça va, en ce moment-là, de un mois à un an de servitude pénale, si je ne me trompe pas. Donc, le fait de battre une femme enceinte et de l'amener, n'est-ce pas, à avorter, est plus sévèrement puni que des coups de blessure simples. Alors, il a aussi...
Quelle est la procédure à suivre à un enfant dont les droits sont bafoués? Quelle est la procédure à suivre? Donc, vous venez de dire tout à l'heure qu'il faut aller se présenter à un poste, à un commissariat de police. Hein.
Oui, j'ai peut-être oublié d'ajouter que, n'est-ce pas, la personne, toute personne, tout tiers qui assiste à une maltraitance d'un enfant a aussi le devoir citoyen d'aller dénoncer lorsque cet enfant terrorisé ne parvient pas à le faire par lui-même. Voilà donc, n'est-ce pas, les deux réponses que je pouvais donner à notre auditeur.
Joseph, avant de poursuivre, Maître Maïdi nous appelle de Kolozi, dans la province du Katanga. Maître Maïdi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute.
Monsieur le journaliste, j'ai une question à faire poser à Maître Guillaume Malher.
Oui.
Là, c'est partant la loi du 10 janvier 2009. Je fais allusion de la protection judiciaire. Alors qu'à ce jour, qu'en est-il même des officiers judiciaires, c'est-à-dire la police, c'est-à-dire l'officier du ministère public, quand il est en face d'un enfant mineur, parce que la loi lui reconnaît cela, de le déférer devant son juge naturel. Mais pratiquement, tout ce qui se passe, on préfère garder l'enfant pendant plus d'une semaine pour juste le besoin d'argent. Qu'en est-il de cet aspect des choses, monsieur le journaliste?
Merci, Maître Maïdi de Kolozi. Maître Aguila.
Oui, je réponds tout de suite à Maître Maïdi pour lui dire qu'il a tout à fait raison. Sauf que nous, ici, nous étions en train de parler de l'enfant victime. Lui, il parle maintenant de l'enfant en conflit avec la loi, donc l'enfant auteur d'une infraction. Mmh. Eh bien, effectivement, lorsqu'un tel enfant est apporté devant un officier de police judiciaire, celui-ci a le devoir de l'acheminer immédiatement, sans délai, devant le juge des enfants. Maître a raison de le souligner. Mmh. Et ce droit est souvent violé, le droit de l'enfant d'être directement acheminé devant son juge naturel et de ne pas être gardé outre mesure devant les officiers de police judiciaire. Maître a tout à fait raison.
Voilà. Alors, Christian de Mbandaka, il dit les parents n'ont pas de moyens, ils utilisent les mineurs, leurs enfants vendent les cacahuètes dans la rue. Que dit la loi? Quelles sont les sanctions? Et puis, il parle de l'adulte, les parents sont morts, et puis l'aîné s'accapare de tous les biens au détriment des mineurs, des tout petits. Et qu'est-ce qu'il peut faire?
Oui, merci beaucoup pour ces deux questions. Pour les parents, n'est-ce pas, ils se rendent aussi coupables d'exploitation économique des enfants en les envoyant aller faire des petits commerces au lieu de les envoyer à l'école. C'est l'article 187 de la loi protection de l'enfant qui règle cette question en sanctionnant ce fait d'une peine de prison qui peut aller d'une année à 3 ans, ainsi que d'une peine d'amende qui peut aller de 100 000 à 200 000 francs congolais. Et il faut noter que dans certaines circonstances très graves, par exemple lorsque les parents sont des récidivistes, la loi permet qu'on aille jusqu'à leur ôter l'autorité parentale sur cet enfant là-bas et le confier à un tuteur plus, n'est-ce pas,
responsable. Oui.
Alors, si vous permettez, je voudrais corriger une petite chose à l'intention de notre auditeur Joseph Kilaou de Kananga.
Oui.
Je disais donc tout à l'heure, je me suis trompé en disant que c'est de 6 mois à 1 an pour les coups de blessure infligés à une femme enceinte. Ça, c'était lorsque ces coups de blessure ne provoquent aucune infirmité grave. Mais lorsque ces coups de blessure vont jusqu'à provoquer l'avortement, la peine est aggravée et elle passe de 2 ans à 5 ans de prison, ainsi que d'une une amende de 350 000 à 500 000 francs congolais. Donc c'est pour dire que le fait de taper une femme jusqu'à l'avortement, n'est-ce pas, est très sévèrement puni par la loi.
Bien, et la deuxième question des questions, l'adulte qui s'approprie eh bien les parents, les défunts parents au détriment des les tout petits.
Oui, tout à fait. La même loi, n'est-ce pas, interdit interdit de vendre ou de donner en gage des biens que l'on sait appartenir à un enfant, ou de les soustraire frauduleusement ou par menace, etc. Eh bien, il y a, selon chaque situation, il y a des sanctions qui sont très sévères,
oui.
Qui sont combinées à l'article 164, 165, 166, n'est-ce pas, de la loi portant protection de l'enfant. Ainsi, on a des peines de prison qui vont, n'est-ce pas, par exemple, pour celui qui vend, n'est-ce pas, un immeuble hein, qui sait appartenir à des enfants, parce que lui, il est l'aîné, il s'en approprie et vend,
oui.
Eh bien, la peine, c'est de 5 ans à 10 ans de prison, ainsi que d'une amende de 250 000 à 500 000 francs congolais. Le fait de s'accaparer, par exemple, une maison qui est censée appartenir à des enfants, parce que vous êtes un aîné, vous êtes en copropriété avec eux,
oui.
Vous vous imposez sur eux, vous vendez, ou vous êtes un oncle, au nom de la coutume, vous prenez l'immeuble des enfants, vous vendez, eh bien, vous pouvez aller jusqu'à faire 10 ans de prison pour ce fait-là.
Alors, Matou qui parle d'un homme qui a divorcé avec sa femme, et la femme part avec l'enfant, et le mari se rend compte que l'enfant souffre là où il est parti. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Oui, lui, il évoque là une question générale de la garde des enfants.
Oui.
La loi protection, portant protection de l'enfant, dit clairement que l'enfant a le droit de connaître son père et sa mère et de vivre avec eux.
Mmh.
Alors, lorsque ceux-ci se séparent, le lieu de résidence de l'enfant est déterminé selon la loi en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Oui.
Eh bien, lorsque cette mère-là ne peut pas subvenir aux besoins de l'enfant, ne sait pas s'occuper de son éducation, eh bien, le papa peut s'adresser au tribunal de paix le plus proche et obtenir que la garde de l'enfant lui soit, n'est-ce pas, accordée à lui plutôt qu'à sa femme, qui ne gardera qu'un droit de visite envers cet enfant qui vivra désormais avec son père.
Guillaume Alléré, juriste indépendant, merci et bon début de semaine.
Merci à vous, Jody, merci à Radio Capital.